Aujourd'hui, dans Enjeux de santé, nous aborderons un enjeu plus que fondamental, celui de la pérennité de nos hôpitaux. L'hôpital public que l'on connaît aujourd'hui découle de plusieurs siècles d'histoire sanitaire et sociale, œuvre de charité au Moyen-Âge liée à la religion et à l'Église. Ses ressources financières proviennent de dons individuels, puis durant la Renaissance, ce sont des œuvres de bienfaisance en favorisant l'implication de laïcs dans la gestion. Les dépenses sont financées par une taxe communale et de dons. On y crée des hôtels-lieux et des hôpitaux généraux. L'hôpital devient un centre de soins au XXe siècle, après des progrès scientifiques au XIXe, et l'apparition des premières assurances sociales qui se généralisent en 1945. Au début des années 40, la loi consacre juridiquement l'hôpital comme un établissement public sanitaire et social, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, mais rattaché à une collectivité territoriale. En 1958, la réforme Debré crée les centres hospitalo-universitaires, ce qu'on appelle les CHU, lieux de soins et de recherche réunissant praticiens et universitaires. Mais aujourd'hui, rentabilité, productivité, management sont les nouveaux mots qui dirigent le fonctionnement des hôpitaux publics, des mots tirés du monde de l'entreprise. L'hôpital public va mal, des soignants sous-effectifs qui provoquent un accroissement de la charge de travail individuelle, des locaux, du matériel vieillissant, un manque de lits certain, des hôpitaux de proximité obligés de fermer de faute de moyens, la qualité de prise en charge des patients s'en fait forcément ressentir. Et pourquoi ? Combler le déficit de l'assurance maladie ? La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, évalue à 30% les dépenses de l'assurance maladie qui ne sont pas pertinentes, souligne-t-elle. Elle avait annoncé en début d'année, d'ici 2018, les hôpitaux français devront économiser au moins 3 milliards d'euros, mais la population augmente, le vieillissement également, le nombre de cas de maladies chroniques explose. Et du côté des soignants, même constat, mauvaises conditions de travail entraînant des mal-être, des épuisements professionnels, les arrêts maladie sont fréquents et ne peuvent pas toujours être remplacés. Stress, multiplication des burn-out avec des risques suicidaires avérés, du harcèlement moral, des violences de plus en plus recensées envers les professionnels de la santé, des statuts salariés précaires. Même le monde médiatique souligne le mal-être des élèves infirmiers, aides-soignants et internes en médecine. En septembre 2017, un sondage réalisé par Adoxa pour la Fédération hospitalière de France montre que la majorité des Français sont fiers de leurs hôpitaux, mais craignent une détérioration de la qualité des soins. La chasse au coût oblige à se réformer et à faire des choix douloureux. Pourtant, le monde médical tire la sonnette d'alarme depuis quelques années déjà. Pour comprendre cela, nous nous sommes rendus au centre hospitalier spécialisé en psychiatrie Guillaume Régnier à Rennes, un hôpital touché par une politique d'austérité qui, depuis le 7 novembre dernier, est en grève reconductible, soutenue par le syndicat Sud Santé, initiateur du mouvement. Nous nous sommes rendus devant le CHGR afin d'en discuter avec Goulaine Boulion, membre du syndicat Sud Santé Sociaux, et d'assister à l'AG qui se tenait ce mercredi 21 novembre à 14h.
Vous menez une grève reconductible depuis le 7 novembre 2017. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement ?
Il n'y a pas eu de déclencheur de ce mouvement, il n'y a pas eu d'événement, comme il y avait eu en 2012 où il y avait eu un patient qui avait été accueilli sur un matelas entre deux lits dans une chambre. C'est depuis un an et demi, on s'inquiète de l'évolution de l'hôpital, des patients qui sont hospitalisés, qui n'ont pas de lit à disposition à certains moments. Il y a des patients qui attendent 8 heures sur une chaise, ça provoque de l'énervement, ils arrivent sur un lit, on leur fait changer le lit ou le service le lendemain parce que c'était le lit de quelqu'un qui était en permissionnaire. Tout ça, ça crée de l'indisponibilité des soignants, les soignants sont eux-mêmes en effectif minimum, ça génère de la violence de la part des patients, mais aussi de l'insécurité au travail chez les soignants. Donc, c'est des discussions qu'on a eues au syndicat quasiment tous les mois en conseil syndical et on s'est dit qu'on n'allait pas attendre cette fois qu'il arrive quelque chose puisque en 2012 il y a eu l'élément déclencheur et là il y a des choses plus graves qui sont en jeu, c'est qu'il y a un risque suicidaire avéré de la part de collègues qui travaillent au centre hospitalier Guillaume Régnier à cause des conditions de travail.
Les secteurs d'origine, éventuellement des patients accueillis également sur des places de CSI ou transférés éventuellement sur d'autres établissements. C'est pour ça que la réouverture de l'unité de Paris nous semble tout à fait justifiée par rapport aux ajustements qui sont faits sur les établissements. Mais aussi des patients pour qui on n'a plus le temps. qui attendent qu'un soignant soit disponible.
La crainte du suicide dans le domaine de la santé et dans le domaine hospitalier, c'est une grande crainte pour les syndicats.
C'est une crainte, mais c'est aussi quelque chose de concret. On a eu dans notre syndicat et dans les deux autres syndicats de l'hôpital des témoignages de gens qui avaient des idées scénarisées des idées scénarisées qui sont en lien avec le travail, puisque les différentes réorganisations de travail avec moins de moyens, on nous demande de nous réorganiser pour mieux faire les choses mais avec moins de moyens, ça finit par mettre des pressions sur les agents, on individualise les éventuelles fautes qui peuvent arriver et donc les gens ne sont pas bien avec ça. Il y a beaucoup de gens qui ramènent du travail chez eux, dans leur tête, depuis un an et demi, qui n'ont pas réussi à trouver de solution collective parce qu'on empêche le collectif d'exister sur Guillaume Régnier et qui ramènent ça chez eux, qui ne sont pas bien et ça crée des situations très inconfortables pour les salariés.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets sur l'impact des décisions qui sont prises à la fois sur les patients mais également sur le personnel ?
Sur les patients, la direction a sur des belles plaquettes et sur des beaux discours l'habitude de dire qu'ils veulent favoriser l'amélioration des conditions de travail et donc l'amélioration de l'accueil des patients. C'est le contraire qu'ils font. Ils veulent concrètement, depuis quelques années, ils essaient de faire croire aux gens qu'il faut favoriser ce qui s'appelle l'extra-hospitalier. Donner des moyens à nos collègues qui travaillent dans les CMP, dans les structures extérieures, pour éviter au maximum les hospitalisations. Sauf qu'ils font ça dans un contexte où déjà l'extra-hospitalier, ils le réorganisent mais en enlevant des moyens, donc en diminuant le soin sur l'extra-hospitalier. Et donc, il y a besoin d'hospitaliser les gens sur Guillaume Régnier. Quand sur l'extra-hospitalier, les collègues, encore la semaine dernière, sur un CMP, un patient émettait des risques suicidaires, demandait d'être hospitalisé en urgence. La collègue lui a dit « je suis désolé, il n'y a pas de lit » et « je suis désolé, je ne suis pas disponible demain et après-demain parce que j'ai d'autres patients à voir, parce que je suis surchargé de travail ». Si on donnait des moyens supplémentaires sur l'extra-hospitalier, ça permettrait de limiter les nécessités d'hospitalisation, mais ce n'est pas le cas. Et on a sur un second volet, je ne sais pas comment exprimer ça, mais la population explose sur le bassin rennais, donc diminue des lits en intra alors que la population explose, c'est assez invraisemblable. Hein.
Qu'est-ce que vous attendez comme résultat, comme réponse à la suite de cette grève ?
On attend l'ouverture d'une unité supplémentaire avec des moyens autour, des moyens du personnel administratif et soignant pour accompagner l'ouverture d'une unité de 20 lits en plus. On attend également le renforcement des ce qu'on appelle les pools d'établissement, les équipes de remplacement. On veut qu'il y ait 15 équivalents temps plein en plus de ce qui existe déjà. Parce que là, la direction se vante d'avoir donné l'équivalent de 5 équivalents temps plein en plus sur 5 mois, mais ils expliquent bien que c'est pour pouvoir permettre aux agents de poser leur congé en fin et en début d'année, parce qu'ils voient bien que les gens sont épuisés, et il faut bien qu'ils posent leur congé annuel, leur RTT, leur repos férié. Donc on attend une amélioration des conditions de travail, mais l'ouverture d'un service supplémentaire et des postes en plus.
Vous parlez beaucoup de la direction. La direction, elle suit finalement la politique qui est donnée par le gouvernement. Ça dépend vraiment du gouvernement ?
La direction, il y a encore moins d'un an, disait qu'il n'allait pas demander des choses qu'elle n'obtiendrait pas à l'ARS, c'est l'Agence régionale de santé. Donc oui, ce sont des gens qui obéissent bien à ce qu'on leur demande de faire.
Pour votre part à la CGT, dans l'intérêt des salariés de cet établissement, dans l'intérêt des patients, nous estimons qu'il est temps de rassembler nos forces, de s'organiser pour résister. Nous sommes reçus cet après-midi, comme vous l'a dit tout à l'heure Ruben, avec le syndicat Sud à l'ARS. Nous porterons bien sûr les revendications auprès de ces décideurs politiques. Je rappelle pour les revendications pour nous, la pérennisation du pont d'établissement à hauteur de ce qui a été acté pour le mois de décembre. Le remplacement de toutes les absences, maladies, maternité, détachements syndicaux et j'en passe. Le respect des effectifs de fonctionnement tout au long de l'année, l'arrêt des suppressions de lits et la réouverture d'une unité de 20 lits, la stagiarisation de nos collègues contractuels. Nous ne sommes pas dupes des réponses qui pourraient nous être faites. À l'issue de cette réunion, nous allons bien sûr vous faire un rapport et évaluer la situation. Il va de soi pour nous que nous allons demander à ce que la réserve prudentielle de 500 000 euros soit débloquée pour le CHGR. qu'elles nous reviennent pour travailler dans de meilleures conditions, pour que les patients soient accueillis dans de meilleures conditions également. Nous sommes prêts pour une action de masse la plus concentrée possible avec tous les collègues.
Qu'est-ce que vous voulez adresser au gouvernement, notamment à la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, qui parle d'une révolution douce dans le système de santé actuel?
Sa révolution douce, elle a eu des propos dans les médias en disant qu'il y avait des lits qui n'étaient pas toujours occupés dans certains services. Ce serait bien qu'elle cite les hôpitaux ou les services où elle a vu des lits non occupés. Nous, on est en contact avec pas mal de sections syndicales CGT au Sud dans toute la France et on a des témoignages qui vont dans le sens de ce que les gens vivent ici, le manque de lits. Donc sa révolution douce, il faudrait la mettre en place avec des moyens supplémentaires. C'est honteux de ne pas pouvoir soigner correctement la population du pays. C'est pas normal d'en arriver à un système où on refuse aux gens de rentrer parce qu'il n'y a pas de place, ou on fait sortir des gens plus tôt pour libérer une place temporairement. En plus, c'est l'argent de la sécurité sociale, et la sécurité sociale à la base, peut-être que Madame Buzyn l'a oublié ou n'a pas été formée, c'est se soigner selon ses besoins et cotiser selon ses moyens.
C'est que le Parnum reste, le vote a été massif. Donc en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est que ceux qui souhaitent aussi s'engager pour venir tenir le Parnum, il y a des plages horaires que vous pouvez prendre dans la journée, dans la nuit, en fonction de comment vous vous sentez de le faire. Ça peut être des fois quelques-uns, c'est les plus sympas aussi. Cette action-là, s'il y a des idées qui germent d'action, des idées que vous avez de concerts éventuellement un soir ou de choses comme ça, d'action plus vers la rue, peut-être sortir à un moment, est-ce qu'on fait quelque chose vers la cité, peu importe. Mais il faut venir, en effet, qu'on en parle et puis qu'éventuellement on organise quelque chose là, dans les jours à venir avec vos idées.
Cela fait donc 14 jours maintenant que les salariés et syndicats sont sous la tente installés à l'entrée de l'hôpital. La grève du CHGR continue. La CSGT appelle à son tour à cesser le travail depuis quelques jours. Actuellement, plus de 800 signatures ont été signées. D'autres hôpitaux français sont en grève eux aussi, comme le service de chirurgie et de médecine à l'hôpital de Mont-Luçon dans l'Allier, puis le centre hospitalier du Nord Mayenne depuis le 16 novembre également. Pour plus d'infos, formation sur la grève du CHGR, rendez-vous sur la page Facebook Sud CHGR.